En se basant sur la tradition patristique, les pères de l'Église, on peut distinguer un dynamisme constant à travers lequel la tentation se développe dans le cœur de l'homme. Alors, en simplifiant les indications des pères de l'Église, il est possible de tracer un itinéraire qui se compose de 4 étapes à travers lesquelles la tentation pénètre nos existences. Alors, même s'il y en a 6 chez les pères, je les cite, la suggestion ou attaque, la liaison, le consentement, la captivité, ça c'est dans l'optique de Jean Climac, l'accomplissement et finalement ce que les pères appellent la passion. Mais je vais me limiter à cette 4 dimensions. La suggestion, ce que suggère la tentation, le dialogue, le consentement et finalement la passion ou maladie, si vous préférez. Donc commencer par la suggestion, par le début. La tentation se présente au cœur de l'homme à partir de stimuli qui, même s'ils concernent des objets ou des créatures extérieures à nous, se traduisent bien vite en activité imaginative et psychologique, intérieure. Et Jean Climac, père de l'Église donc, du VIe siècle, en parle en ces termes. C'est une simple pensée ou bien l'image d'une chose qui est née dans le cœur comme une apparition fortuite et qui se montre soudain à l'esprit. Jean Damascène dit quant à lui plus sobrement, c'est simplement ce que nous propose l'ennemi. Vous savez qu'on a vu il y a 2 semaines, le cœur est le lieu où tout ça se passe. Donc dans notre cœur affleure une suggestion, c'est-à-dire la possibilité d'une action mauvaise, allant à l'encontre de la pensée de Dieu et de notre équilibre spirituel, émotionnel et psychique. Une pensée ou une idée fugitive sollicite notre imaginaire et cet appel remonte du subconscient à la conscience, devenant une suggestion séduisante ayant la capacité de nous séduire. Un élémentaire discernement démontre qu'il s'agit d'une pensée mauvaise, il faut l'envisager donc, il faut l'analyser, dont l'origine ne se trouve pas en Dieu, tout simplement parce qu'elle n'honore pas Dieu, elle ne passe pas par le test, que j'appellerais donc de l'honorabilité, et dont Paul, me semble-t-il, nous parle en Philippiens 4, et on va lire ce texte. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Si ça vous vient, c'est très bien. Si ça ne passe pas ce test-là, il faut commencer à s'inquiéter. D'ailleurs, les symptômes nous indiquant qu'il s'agit bien d'une mauvaise pensée se font très sentir. Notre cœur se trouble, la pensée en question le prive de sa paix et le livre à l'anxiété, à l'excitation. Comme je pense l'avoir déjà dit précédemment, le récit de la Genèse présente d'ailleurs le péché comme une force insidieuse et agressive, prête à prendre possession de l'homme comme une bête sauvage tapie dans l'ombre, tel un prédateur qui se prépare à bondir sur sa proie. Comme le dit aussi le Siracide, le livre de Ben Sirac, un apocryphe juif du IIe siècle avant la naissance de Jésus, « Le lion est à l'affût de sa proie, ainsi le péché guette ceux qui pratiquent l'injustice. » Alors Pierre, l'apôtre Pierre, ne dira pas autre chose dans sa première épître. Il dit quelque chose d'analogue. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » C'est intéressant, 2 siècles de distance, que la référence au lion est la même. Est-ce que Pierre lisait le Siracide? C'est probable. C'était un livre de la sagesse juive qui avait beaucoup de lecteurs à l'époque. On remarqua donc la référence à cette image commune entre Pierre et le Siracide. Si l'on recourt à une autre image, on peut affirmer que la suggestion exerce sur le cœur humain une force de séduction analogue à l'attraction sexuelle. Et ce n'est pas pour rien, les textes bibliques vont dans ce sens-là, vous allez comprendre. Voilà pourquoi, par exemple, le psalmiste décrit l'itinéraire qui conduit l'homme à consommer le péché en se servant précisément de la métaphore sexuelle. On peut trouver ça dans le psaume 7, et j'ai souligné, « Voici le méchant est en travail. Vous savez ce que c'est être en travail, hein, qu'une femme en travail. Pour l'iniquité, et il conçoit le trouble, et il enfante le mensonge. C'est dans la traduction de Darby. Oui, parfois, il a mieux traduit que les autres, hein, ça arrive. Le pécheur donc conçoit le mal, il porte le méfait et enfante finalement le malheur. Et le Nouveau Testament de s'en faire lui aussi l'écho, hein, rappelez-vous l'épître de Jacques. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, à terme, engendre, mais au monde, la mort. Ça, c'est dans l'introduction du semeur. Alors, même si nous ne possédions pas tous ces témoignages bibliques, notre expérience nous enseignerait très vite que la tentation fait partie de notre vie, fait partie de l'être humain. Nous sommes tous tentés et aucune tentation ne nous est étrangère. Pour les pères du désert, cela est si vrai que la reconnaissance de la tentation et la prise en charge du combat qu'elle impose sont indispensables au salut. Voilà un apophtegme d'un père du désert. Quiconque n'a pas été tenté ne pourra entrer dans le royaume des cieux, supprime les tentations et pas un n'est sauvé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que si vous n'êtes pas tenté et que vous ne vous battez pas contre la tentation, si vous ne rentrez pas dans ce combat spirituel, c'est que vous ne connaissez pas le Christ. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ne se bat pas à ce niveau-là. Il ne va pas authentifier ce qui vient vers lui comme étant mauvais, parce qu'il n'a pas la référence, tout simplement. Alors bien sûr, ces mouvements initiaux sont involontaires, ça c'est la bonne nouvelle, ça vient. Et il se différencie d'une personne à l'autre selon les dominantes auxquelles les uns et les autres sont le plus exposés. Nous ne sommes pas tous pareils. En raison de sa structure personnelle, de son histoire et de ses tendances au péché, de nos fragilités à tous. Nous ne sommes pas fragiles aux mêmes endroits. Donc moi, il y a des domaines de ma vie où ça va être facile de dire « non ». Et puis, dans le même domaine, vous allez avoir un mal de chien à dire non. Et inversement, dans certains domaines de vos vies, vous avez facile à dire non à la tentation, et moi, j'aurais peut-être beaucoup plus difficile à le faire. Ces suggestions dépendent aussi toutefois, je crois que j'en avais déjà touché un mot, de notre manière de vivre, évidemment. On peut les alimenter. Hein, les rencontres, les lectures, les images s'inscrivent en nous et laissent des traces et des échos qui ressuscitent sans crier gare, avec souvent la puissance accrue du désir d'y céder. On peut polluer son cœur aussi sûrement par des paroles, des images, des lectures ou des attitudes que notre corps l'est par la pollution, par exemple. On se pollue l'âme d'une manière invraisemblable, très souvent. Donc le combat spirituel, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, exige dès lors comme condition préliminaire un contexte d'hygiène des sens, nous sommes responsables de ça, des yeux, du regard en particulier, des images que nous emmagasinons et que nous cultivons, une grande vigilance sur notre imaginaire est requise. Et il est probable que dans les semaines à venir, je parlerai de l'imaginaire d'ailleurs. Donc la suggestion particulière qui va naître en nous à un moment donné va en fait dévoiler la qualité de notre cœur. C'est le sens de la phrase de Jésus, hein, c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Ça nous permet de savoir où en est notre cœur, au-delà de ce que nous pouvons nous-mêmes en penser en disant tout va très bien, ça va dépendre de ce qui va sortir de votre cœur. Donc, la suggestion, la tentation va à un moment manifester les désirs et les fantasmes qui l'habitent. Le positif de tout ça, parce qu'il y en a, rassurez-vous, hein, étant que savoir donner un nom aux pensées qui nous séduisent signifie déjà entrer dans une connaissance embryonnaire de soi et de ses fragilités. Si on est capable de commencer à mettre le doigt sur ce qui nous pose problème dans ce domaine-là, on commence à mieux se connaître. Et on est déjà quelque part en marche vers une forme de guérison. Et on peut donc se prédisposer à la lutte. Si je sais que j'ai une faiblesse à un endroit, je dois bétonner cet endroit-là, je dois être plus vigilant à cet endroit-là. Les tentations participent donc à nous révéler à nous-mêmes. Et toute tentation est également, et c'est important de le rappeler, une possibilité, une occasion de faire le bien en y résistant, tout simplement. En choisissant le chemin de la vie plutôt que celui de la mort, parce qu'en définitive, c'est ça le dilemme, c'est ça le choix. Prendre le chemin de la vie ou prendre le chemin de la mort. Il s'agit dès lors, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'interpréter la suggestion pour comprendre si elle est bonne ou mauvaise, car vous l'aurez remarqué comme moi, on pense tout le temps. Certains plus que d'autres, sans doute, mais tout le monde pense en permanence. Ce sont des milliards de pensées, de synapses qui s'articulent, qui se bousculent dans nos têtes 24 heures sur 24. Pour ça, ça m'a toujours fait rire quand on parlait de faire le vide. Mais mes amis, j'ai essayé, bon courage. En tout cas, moi, du vide, il n'y a pas. C'est plutôt rempli. Donc, une fois reconnue la qualité mauvaise de la suggestion, il faut commencer résolument la lutte, car les pensées doivent être brisées, détruites dès leur naissance. La règle de Saint Benoît, Geoffrey, n'est-ce pas, tu es en train de lire Saint Benoît, il était temps, qui s'adresse à des moines, mais reste valable néanmoins pour tout chrétien, reprend en fait une exégèse allégorique, une interprétation du psaume 37, qui me paraît intéressante sur le plan pratique. On va prendre ce verset. Pour ceux qui aiment Bonhème, le groupe disco des années 70, « By the rivers of Babylon, where we sat down », c'est ça. Okay. Donc ça, c'est la fin du psaume, c'est beaucoup moins drôle. « Toi, ville de Babylone, tu seras dévastée, heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait, heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher. » Allez, voilà, c'est dit, fallait que ça passe, hein. Alors, j'aimerais vous dire le contraire, mais évidemment, c'est un psaume, ce qu'on appelle un psaume d'imprécation. Les pères de l'Église, en lisant ce nombre de psaumes, se sont dit, c'est légèrement problématique, ce psaume. On va quand même va commencer à éclater, même en pensée, des enfants sur des rochers. Donc, ils ont allégorisé cette lecture de ce psaume, il y en a d'autres, hein, un peu violent dans les faits et dans les mots, pour se les réapproprier et pour pouvoir les utiliser dans le combat spirituel contre les tentations. Donc ces paroles sont terribles, mais elles émanent de déportés juifs à Babylone qui, tout le jour durant, subissaient les moqueries des habitants de la ville. Donc à un moment, ça saoule un peu. Donc Benoît, Saint Benoît, fait de ses enfants donc une allégorie des mauvaises pensées qui nous font la guerre et qu'il faut donc fracasser sans aucune pitié comme on ferait d'un ennemi mortel lors d'un corps à corps. Donc les pères de l'Église, très vite, ont lu ce psaume en disant « Ces enfants à fracasser, ce sont les mauvaises pensées qui m'assaillent. » Antoine le Grand, le premier moine de l'histoire, a dit quant à lui, enfin, le grand, il n'était pas si grand que ça, hein, mais « Il faut saisir cette engeance de la pensée diabolique et la fracasser contre le Christ. » Et c'est ici qu'il faut redire aussi ce conseil des pères du désert, s'inspirant du texte de la Genèse. « Si le serpent n'est pas saisi à la tête » avant qu'il s'insinue dans la cellule étant le lieu de vie du moine, le combat devient décidément plus difficile et il est peut-être déjà perdu. Donc il faut couper la tête du serpent dès qu'il passe sa tête. Dès que la pensée arrive, il faut lui niquer sa race, on dirait aujourd'hui. Voilà. Et je m'adapte. J'ai pas mis ma casquette à l'envers, mais... Non, vraiment. Alors, il s'agit d'images, bien sûr. Hein. Mais qui ne commencez pas à fracasser les gosses en sortant d'ici. Quoi. Mais qui exprime une nécessité absolue, celle d'entreprendre sans délai le combat contre l'impulsion qui monte dans notre cœur. Un autre apothégme des pères du désert, il est bon, frère, de ne pas faire le mal, même en pensée. Et si tu es tenté, lutte pour ne pas succomber. Réagis au moins pour ne pas commettre le péché. Alors, vous l'aurez sans doute compris, soit on est victorieux de la tentation, soit c'est elle qui gagne. Il n'existe pas de troisième voie. Il est temps d'aborder maintenant le deuxième mouvement de notre symphonie diabolique. C'est joli, ça. le dialogue ou chez les pères, la liaison, le lien. Oui. Si l'on s'entretient, on dialogue avec la suggestion que l'on instaure avec elle, donc un dialogue, je l'ai dit, celle-ci grossit au point de devenir une présence harcelante et obsédante qui nous domine et nous prive dès lors de notre liberté intérieure. Et c'est là, notamment en passant, un moment essentiel, notamment pour une bonne hygiène du cœur, dit entre autres Enzo Bianchi. Il fait remarquer que, par exemple, la dépression, en effet, commence justement par une pensée fixe qui nous assaille et nous ôte peu à peu l'envie de vivre, cette obsessionnelle. Il est évident que l'entretien plaisant auquel on prend goût avec la tentation, selon l'expression d'Ephrem, le Syrien. Donc, ce dialogue plaisant avec la suggestion, cette consommation invisible et intérieure encore du péché, il n'est pas encore commis, mais il commence à être commis à l'intérieur, représente ensuite le prélude à sa manifestation concrète par le biais d'actions véritablement pécheresses. C'est ici qu'il faut apporter les nuances qu'apportent les pères, justement. Jean Climac définit la liaison ou dialogue comme suit. Une conversation avec ce qui vient de se manifester, accompagnée ou non de passion, autrement dit, elle est neutre ou elle est maladive. Comme l'indique cette dernière précision, il convient de distinguer deux degrés dans ce contact. Un premier degré qui est la simple conversation avec la pensée, homilia en grec, où l'homme s'arrête sur la pensée et l'entretient en s'entretenant avec elle, mais sans y adhérer. Il l'analyse. Il la sous-pèse. Il n'y a pas de péché à ce niveau-là. Hein. Il est simplement en train de l'analyser. C'est-à-dire sans aucunement s'attacher à elle. Il ne s'attache pas à elle. Il ne se passe rien. Mais il analyse. Ce qui vient est en train de monter en son cœur. Puis un second degré qui constitue la liaison proprement dite, où l'homme entre véritablement en relation avec la pensée, s'attache et s'unit à elle, toujours cette dimension sexuelle, en y prenant du plaisir. Hésychius de Batos fait ainsi remarquer qu'alors l'homme mêle ses propres pensées et images aux pensées et images de la suggestion démoniaque. Ça s'amplifie. On s'imagine des choses. Du fait de cette union, l'image ou la pensée démoniaque croît de plus en plus, donc grandit et se dilate jusqu'à paraître désirable, belle et plaisante à l'esprit. À ce stade-là, on n'est pas loin de se laisser prendre par elle. Mais à ce stade, cependant, si l'homme envisage la pensée, s'unit à elle, il n'y adhère pas encore, il ne l'accepte pas encore dans l'absolu. Vient alors parfois, souvent, malheureusement, le stade suivant qui est le consentement. Le fait que ce dialogue se prolonge de manière complaisante est le signe du consentement à la tentation, en fait. Plus ça se prolonge, le dialogue, plus le consentement est marqué. Et ça constitue le stade où la décision d'agir, comme la tentation nous le suggère, est désormais prise. Jean de Gaza l'exprime très bien, me semble-t-il, le signe du consentement, c'est que la chose plaise à l'homme, qu'il s'en réjouisse dans son cœur et qu'il y pense volontiers. Au contraire, si on contredit la pensée et qu'on lutte pour ne pas l'accepter, il n'y a pas de consentement, mais lutte, et cela met l'homme à l'épreuve et le fait progresser. Puis, lorsque le consentement est réitéré, on reconsent la même pensée encore et encore. Lorsque ça se répète, alors on instaure l'habitude du péché. Et il s'agit là de ce que les pères appellent la passion, pathos. On doit ce terme pathologie et pathologique. Donc, une sorte d'accoutumance au vice, et ça va revenir encore. Et encore, et là, c'est le signe d'une pathologie, d'une maladie spirituelle. Je recite encore Jean Climac, un mal, dit Jean Climac, qui depuis longtemps affectait secrètement l'âme et qui désormais, lui a fait contracter une liaison intime avec lui et l'a établie comme dans une disposition habituelle, en vertu de laquelle elle s'y porte d'elle-même, spontanément et par affinité. On va finir par provoquer nous-mêmes, potentiellement et partiellement, la tentation. Donc d'un bout à l'autre de la chaîne que je viens de décrire, la culpabilité de l'homme n'est pourtant pas la même. La suggestion est sans péché. Pourquoi ? Ben parce qu'elle n'est pas coupable. En effet, il ne dépend pas de nous de ne pas être tenté. Hein. C'est hors de notre pouvoir. De là la demande du Notre Père enseignée par Jésus, ne nous laisse pas entrer en tentation, parce qu'on ne peut pas décider de ne pas y entrer. On ne peut pas dire, moi aujourd'hui je ne serai pas tenté, je n'ai pas envie. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc ne nous abandonne pas, hein, c'est ce que veut dire cette prière, quand la tentation vient. Aide-nous, combat avec nous, fais en sorte qu'on ne tombe pas dedans. Nous ne saurions donc pas être tenus pour responsables de ce fait qui ne dépend pas de notre volonté. Notre Seigneur lui-même, rappelle Marc le moine, a été tenté et n'a cependant pas péché. Même Jésus a été tenté. La liaison, elle, donc, peut être sans péché, car au premier degré de ce stade, l'homme peut s'entretenir avec la pensée sans s'y attacher. Au second degré de ce stade, malheureusement, il y a une union avec la pensée où l'homme commence à prendre un certain plaisir à ce qu'elle suggère. Elle n'est cependant pas entièrement un péché dans la mesure où l'homme n'a pas encore consenti à la pensée. Vient ensuite le consentement, et c'est cette étape qui constitue véritablement le péché. C'est ce consentement que le démon cherche à obtenir si c'est un problème démoniaque. J'aimerais vous dire que c'est toujours le cas, c'est plutôt, je ne vais pas dire rare, mais on produit en nous de dysfonctionnements sans que le diable bien s'occuper de nous. Mais parfois ça arrive. Les pères de l'Église, à un certain stade de vie spirituelle, ils sont tout le temps attaqués par des démons parce que de leur ancienne nature, ne produit quasi plus rien de négatif. Donc, quand s'il y a une tentation, c'est une pression démoniaque. Alors, pour ceux qui ont envie de savoir comment je distingue le fait que c'est quelque chose qui émane de moi ou c'est une pression démoniaque, ça, c'est pour les derniers stades, n'est-ce pas, de la faculté de théologie diabolique que je vais ouvrir bientôt. Et c'est 12 ans d'études. Donc, à un moment, ça peut se poser comme la question. Hein, qu'est-ce qui est extérieur à moi, qu'est-ce qui vient de l'intérieur ? Donc, tant que l'homme n'a pas donné son consentement à la pensée, il reste libre et échappe au pouvoir des démons, lequel pouvoir se limite en fait à la suggestion. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils ne peuvent pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Ils peuvent vous le suggérer uniquement. Ça, c'est ce que rappelle Cyril de Jérusalem. Une fois son consentement donné, la faute est définitivement commise et l'homme devient dès lors captif de la pensée. Il se trouve entraîné malgré lui et ne peut plus rien faire pour retourner en arrière, c'est trop tard. Il va consommer le péché, si vous préférez. Alors, si les pères décrivent si précisément le processus de la tentation, c'est pour souligner que s'il ne dépend pas de nous de ne pas être mis en présence de ce type de suggestion, il dépend entièrement de nous de les accueillir ou de les rejeter. C'est une bonne nouvelle. On peut dire non. Je ne dis pas que c'est facile. On parle de lutte dans la Bible. Donc ça, quand on parle de combat ou de lutte, c'est que c'est quand même difficile. Mais on peut dire non. Martin Luther, le réformateur, s'inspirant des pères, reprend cette vérité sous forme de parabole. « Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher d'y faire leur nid. » On ne peut pas s'empêcher de penser. Mais l'on peut choisir ce à quoi l'on pense. On ne peut pas anticiper ni empêcher la tentation, mais l'on peut choisir d'y résister. On peut choisir de se battre. Et c'est pour que nous comprenions bien que jusqu'à un certain point du processus, à savoir le consentement, il est totalement en notre pouvoir d'éviter d'être soumis aux pensées. C'est pour nous faire savoir enfin qu'à partir de ce point, nous perdons ce pouvoir afin que nous puissions intervenir à temps, qu'il y ait quelque chose à faire. La connaissance de ce processus permet donc au final d'appliquer une stratégie adéquate, du moins je l'espère, pour faire échec aux pensées et aux entreprises qui les inspire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je sais que c'est du dense. On continuera dans la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et on arrivera aussi aux pathologies, etc., etc. J'essaierai d'expliquer ça le mieux possible. N'étant pas un spécialiste dans le domaine, hein. Je ne me suis pas avalé les pères de l'Église. Ils ont fait des volumes entiers parce que pour eux, c'était fondamental. La vie chrétienne, ça, une bonne partie de la vie chrétienne, ça se résume à ça, hein, en fait. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole.